RTN Info, Sonia Bernauer, Mia.
Bonsoir, tous les regards sont rivés sur la France. Aujourd'hui, les électeurs sont appelés à faire leur choix parmi les 11 candidats en lice pour le premier tour de la présidentielle. Un dossier dans ce journal. Vin, poisson, taurine châteloise, rasure et animation musicale, ce sont quelques-uns des ingrédients de la première balade gourmande de Boudry organisée le 28 mai. En tennis, la déception est grande pour l'équipe de Suisse. Elle a été éliminée par la Biélorussie en demi-finale de la Fed Cup après avoir concédé 3 défaites pour un seul point en Grangé. Nicolas Luthi, indétrônable à Colombier, le citoyen d'Autry va remporter ce matin pour la 11e fois la première étape de la Garmin Bike Cup de VTT. Le ciel reste en mode printanier, demain le temps s'annonce à nouveau doux et ensoleillé, il faudra en profiter, ça se gâte ensuite. La question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Quel sera le duo propulsé au second tour de l'élection présidentielle française? Les bureaux de vote sont encore ouverts jusqu'à 19h, voire 20h pour certains en France. 11 candidats sont en lice pour ce premier tour. 4 d'entre eux font figure de favoris. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Les premiers résultats seront connus dans la soirée à partir de 20h environ. Pour le moment, il semble que les électeurs ont répondu présents pour ce scrutin. À Paris, une correspondance de Camille Marigot.
Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation est de 69,4%, un chiffre en légère baisse par rapport à 2012 où 70,5% des électeurs avaient voté à la même heure. Près d'un Français sur trois pourrait donc s'abstenir d'ici la fermeture des bureaux. En tout cas, dès ce matin, l'affluence était bien visible à certains endroits, comme à Lille par exemple, avec parfois plus d'une demi-heure d'attente. De l'attente pour les Français de l'étranger aussi, qui ont voté hier et bien avant 8h ce matin. Certains électeurs ont dû patienter plusieurs heures, comme à Londres ou à Montréal. Dans les Outre-mer aussi, comme en Guadeloupe ou en Martinique, la participation serait moins importante qu'en 2012. À midi, tous les 11 candidats avaient en tout cas voté dans leur fief. Emmanuel Macron au Touquet et Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, tous les deux dans le Pas-de-Calais. Et en région parisienne, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon. Le président François Hollande, lui, a donné sa voix dans son fief de Tulle, en Corrèze, dans le centre de la France. Le scrutin sous haute sécurité s'est globalement déroulé dans le calme, mis à part des véhicules suspects qui ont obligé l'évacuation de 2 bureaux de vote à Besançon, une ville située à une centaine de kilomètres de Berne.
Et en France voisine, à Pontarlier, la participation est par exemple plus importante que lors des dernières élections. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h dans cette localité d'un peu moins de 20 000 habitants où Marie-Lise Saillard a recueilli le témoignage de 2 citoyens.
J'essaie de participer à chaque élection, d'autant plus que je suis une femme et qu'on s'est battu pour ce droit-là. C'est vrai que la campagne a été quand même un peu folklorique, donc... C'est vrai que le choix a été quand même difficile, on essaie de voter pour le moins pire, mais c'est pas forcément évident. Pour moi, en tous les cas, effectivement, le vote, c'était un vote utile et un vote pour essayer aussi de limiter l'émergence des extrêmes, d'éviter que le Front National soit au second tour, et puis bon, essayer aussi de voter pour un candidat jeune et puis dynamique.
C'est important pour vous de faire ce devoir-là ?
Oui, carrément. C'est une chance, j'ai envie de dire. Et puis voilà, pour que la France puisse avoir quelqu'un qui puisse diriger ça correctement, quoi. Et que ça serve à quelque chose, quoi. Qu'on se dise pas, on fait ça pour rien.
Est-ce que quand on a 21 ans, on a tendance à voter un peu comme ses parents ?
Je dirais que, étant plus jeune, on a souvent l'influence des parents qui jouent beaucoup. Après, je pense qu'on est tous libres. Chacun est libre de se renseigner. Et moi, ces dernières années, je me suis beaucoup renseigné sur Internet. Et j'ai beaucoup regardé ce que propose chacun des partis, ce que propose chacun des candidats. Et après, je me suis fait ma propre opinion de la politique et du coup, le candidat que je voudrais choisir.
Les Français de Suisse semblent eux aussi se passionner pour l'élection présidentielle. La mi-journée à Zurich et en milieu d'après-midi à Genève, la participation des expatriés était jugée significative. Au total, près de 134 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales et peuvent donc voter en Suisse pour l'un des 11 candidats en lice. Délégué de François Fillon pour veiller au bon déroulement du scrutin à Zurich, Jean-Philippe Keil n'était pas surpris par l'affluence ce matin au lycée français qui accueillait les électeurs.
D'une part, vous avez beaucoup de binationaux. À ce titre, donc, nous avons une attention toute particulière pour l'exercice du principe de la démocratie. Second point, la circonscription de Zurich et la Suisse en général représentent la première communauté de Français et de Françaises inscrites sur les listes consulaires à l'étranger. Et troisième point, nous avons ici, aujourd'hui, au titre du premier tour des élections présidentielles, un réel enjeu. Et là, un certain nombre de signes nous laissent penser que la participation sera peut-être un petit peu plus élevée qu'elle ne pouvait être lors du précédent scrutin.
Des propos recueillis par Jérôme Favre, les Français de Suisse peuvent voter depuis 8h ce matin jusqu'à 19h dans 99 bureaux de vote, dont une très grande majorité se trouve en Romandie. De manière générale, le taux d'abstention atteindrait 20% selon les premières estimations. Demain matin, les conseillers nationaux neuchâtelois Philippe Bauer et Denis de la Russie seront les invités d'une matinale spéciale consacrée aux résultats du premier tour de cette présidentielle française. Rendez-vous dès 7h10 sur RTN pour des analyses, des réactions et des commentaires en compagnie du libéral radical neuchâtelois et du popiste Loclois. Déguster, écouter et marcher, la société de développement de Boudry propose sa première balade gourmande et culturelle. Une balade qui se tient le 28 mai dans le cadre des festivités 2017 Boudry en vedette. 6 étapes sont au programme, elles sont accessibles à tous, même aux poussettes. À chaque halte, des victuailles et des animations sont proposées aux gourmands. Quant au menu, il a fait l'objet de pas mal de discussions. Jean-François Graff, responsable du parcours et de l'animation.
On y allait un peu par cooptation, en se disant, est-ce qu'à l'entrée, on met du poisson, ou bien est-ce qu'on met du pâté, etc. Donc ça nous a valu quelques discussions assez nourries. Puis finalement, on a un monsieur qui s'occupe de toute l'infrastructure, qui est traiteur lui-même, puis qui a tranché, mais dans le bon sens du terme.
Qu'est-ce qu'on pourra déguster, par exemple ?
Une spécialité neuchâteloise, mais j'irai pas plus loin au départ, la rasure, que bon nombre de neuchâtelois ne connaissent pas, mais les anciens connaissent, et puis c'est tout à fait bon, c'est excellent, mais c'est une spécialité locale. Ensuite, du poisson, bien entendu, au bord de la Reuse, avec une forme de rillette. Puis, alors forcément, une torée. Et puis ensuite, des fromages locaux. Et pour terminer, parce qu'il fallait quand même mettre la cerise sur le gâteau, une spécialité créée par Choco Émotion, qui en fait représente la maison Suchard. Suchard étant natif et résident de Boudry.
Des propos recueillis par Marie Vieumier, les bénéfices de cette première balade gourmande seront reversés aux amis de la Fondation L'Enfance et la Vie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 avril. La jeunesse viticole neuchâteloise lance elle aussi sa première balade gourmande. L'événement se tient le 9 juillet entre Le Landron et Crécier. La Confédération doit cesser d'appliquer aveuglément le règlement de Dublin, c'est l'appel lancé par Amnesty Suisse. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse le pays de faire trop largement usage de l'article du règlement qui prévoit de renvoyer les demandeurs d'asile vers le premier pays européen où ils ont ouvert un dossier et de recourir davantage à la possibilité qu'ont les États de traiter eux-mêmes la requête sur la base de motifs humanitaires ou de compassion. Les attaques terroristes jouent un rôle dans les choix touristiques des Suisses. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par l'Institut GFS Berne pour le compte du Touring Club Suisse. Pour 60% des personnes interrogées, la question du terrorisme est un critère jugé très important au moment de choisir une destination. L'hospitalité des habitants est aussi un facteur de choix important. Les destinations les plus prisées sont le Tessin, l'Italie, les Grisons et le Valais. Plus globalement, la préférence va à la Suisse et à plusieurs pays européens, selon ce sondage. Nouveau revers pour la Turquie, l'Office fédéral de la justice a refusé une deuxième demande d'entraide judiciaire déposée par Ankara, une demande portant sur des propos émis à l'encontre du président turc Recep Tayyip Erdogan et considérée comme offensant par la Turquie. Berne a décidé de ne pas donner suite à cette requête du fait que de tels propos ne sont pas répréhensibles en Suisse. Une première demande avait déjà été repoussée le mois dernier. Le Conseil d'État Soleroy se teint légèrement de vert. Les écologistes sont parvenus à conquérir un siège à l'exécutif pour la première fois. Un siège conquis au détriment du PLR qui n'a plus qu'un seul représentant. C'est l'ancienne conseillère nationale et députée au Grand Conseil Brigitte Wies qui porte le parti des Verts au pouvoir. Les deux hommes accusés de planifier un attentat en pleine période électorale en France ont été présentés à la justice aujourd'hui. Une procédure en vue de leur mise en examen. Les deux suspects avaient été interpellés à Marseille. Un vaste arsenal d'armes à feu et d'explosifs avait été retrouvé dans le logement qu'il louait. Des objets laissent aussi penser qu'il se revendiquait de l'État islamique. Et un observateur de l'OSCE a été tué aujourd'hui en Ukraine et deux autres blessés lors de l'explosion d'une mine. C'est la première victime dans la région que déplore l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le président de l'OSCE, le ministre autrichien des Affaires étrangères, Sébastien Kurz, a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie sur cet incident. Et puis, c'est un rêve qui se brise. Un garçon de 12 ans avait l'espoir de traverser toute l'Australie d'est en ouest en voiture. Il avait déjà parcouru 1300 km seul lorsqu'il a été stoppé dans son aventure. C'est un pare-choc brisé qui traînait par terre qui a attiré l'attention sur le jeune voyageur arrêté par la police.
Sport.
18h10, place au sport avec vous, Léonard Reichen. Bonsoir.
Bonsoir. Et on commence par du tennis. La Suisse ne jouera pas la finale de la Fed Cup. L'équipe féminine helvétique de tennis a perdu 3-2 cet après-midi contre la Biélorussie. Les Suissesses, qui étaient à un partout hier soir, se sont inclinées lors des deux simples aujourd'hui. Timea Bachinski a d'abord mordu la poussière face à Aliaksandra Sasnovic, 6-2, 7-6. La Vaudoise revient sur cette défaite.
Je m'en veux un peu pour le premier set parce que je pense que je ne l'ai pas fait jouer assez longtemps. Évidemment, j'ai essayé soit de jouer plus rapidement, soit de jouer plus lentement, soit de changer les hauteurs, changer les vitesses. Ce terrain permet pas forcément, enfin les effets ne prennent pas aussi bien que peut-être sur une autre surface. C'est souvent ça quand on gagne beaucoup de matchs. J'ai un peu l'impression qu'elle était juste là et puis elle jouait. Puis j'étais vraiment dans sa zone, sur son nuage. Puis je m'en veux juste que le premier set est parti et fait en quelque sorte trop vite. Parce que je pense que mentalement, elle peut être quand même un petit peu touchée, même si voilà, là, bien sûr, jouer pour son pays, jouer pour le drapeau. Je pense qu'ici, ça doit être très très fort, en tout cas en Biélorussie. Apparemment, il y avait le président qui était là aussi aujourd'hui. Donc, c'est tout à son honneur d'avoir réussi à tenir ça une fois de plus. Et puis, malheureusement, j'ai juste pas réussi à la faire flancher pour jouer un troisième set. J'aurais vraiment, vraiment bien voulu, mais je pense que notre deuxième set était vraiment de très haute qualité. J'ai fait des bons choix, elle a fait des choix encore meilleurs. Je l'ai poussée dans ses retranchements, mais elle a été plus forte que moi à la fin de set.
Et les espoirs suisses reposaient alors sur Victoria Golubic. La Zurichoise devait absolument s'imposer pour que cette demi-finale face à la Biélorussie se joue dans le double décisif. Malheureusement, pour la centaine de supporters présents, Victoria Golubic s'est inclinée pour la seconde fois du week-end. Défaite contre Arina Sabalenka 6-3, 2-6, 6-4. On l'écoute.
Ce n'était déjà pas le week-end qu'on avait rêvé. Pour ma part, j'ai joué deux bons matchs de simple, mais mon travail n'a malheureusement pas suffi pour apporter un point ou même deux points. Et évidemment, la déception est grande.
Un dossier réalisé à Minsk par notre envoyé spécial Jérôme Beuchat. A noter que pour l'honneur, le double emmené par Martina Hingis et Belinda Bencic a battu la paire biélorusse Olga Govortskova et Vera Lapko 6-0, 6-1. Tennis toujours et Rafael Nadal qui triomphe pour la 10e fois sur le rocher. L'Espagnol a battu aujourd'hui Albert Ramos Vignolas 6-1, 6-3 en finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Il devient ainsi le premier joueur de l'Air Open à remporter à 10 reprises le même tournoi. Performance historique pour la Suisse au championnat d'Europe de gymnastique artistique à Cluj en Roumanie. Pablo Breguer et Olivier Egy ont signé le doublé lors de la finale de la barre fixe. Pablo Breguer est le 5e Suisse sacré champion d'Europe. Pour Olivier Egy, ce podium est une première en individuel. Alejandro Valverde est bien le roi des Ardennes en cyclisme. L'Espagnol a remporté aujourd'hui la classique Liège-Bastogne-Liège pour la 4e fois après 2006, 2008 et 2015. À bientôt 37 ans, Valverde a fait la différence au sprint où il s'est imposé devant l'Irlandais Dan Martin. La 3e place revient au Polonais Michał Kwiatkowski. Le Suisse Michael Albazini termine 7e. En Super League de football, Young Boys s'est incliné à domicile face à Lugano 2-1. Victoire de Thun 2-1 à Saint-Gall, qui creuse l'écart avec la lanterne rouge Vaduz. Dans le derby romand, Lausanne s'est imposée contre Sion au stade de Tourbillon 1-0. En Challenge League, Chiasso a remporté le duel des mal classés contre Ville 3-1. Et Chafouz a battu Le Mans-Lausanne 2-0. Au classement, Chiasso quitte sa place de lanterne rouge aux dépens de Ville. Demain, Neuchâtel-Xamax FCS accueille Zurich pour le match au sommet à suivre dès 19h30 en direct sur RTN. On jouait également en deuxième ligue neuchâteloise cet après-midi. Le leader Étoile Sporting a battu 3-0 Couvé. Match nul entre Bosna Neuchâtel et Audax Frioul, 1-1. Nicolas Lutti reste le maître de Planèse. Le Neuchâtelois a remporté ce matin la première étape de la Garmin Bike Cup de VTT. Il s'agit de sa 11e victoire consécutive sur les Hauts-de-Colombiers. Il a devancé au sprint David Gisling de Perry et un autre Neuchâtelois, Jérémy Huguenin, après 47 minutes et 15 secondes de course. Dans des conditions météo printanières et un terrain sec, un groupe de 5 coureurs s'est détaché au fil des tours. Le vainqueur du jour revient sur le déroulement de la course. On écoute Nicolas Lutti.
On est resté plus ou moins 5 ensemble. Jérémy roulait bien au plat, mais il lui manquait quelque chose pour partir tout seul. Je pensais que mon frère Patrick allait pouvoir bien disputer le sprint. Il est très fort au sprint, mais il était un peu émoussé des attaques d'avant. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu, je crois, au sprint, mais il n'a pas pu sprinter en toutes les contractions comme il le fait d'habitude.
Vous vous sentez bien en jambes en ce début de saison, Nicolas Lutti?
Je me suis jamais si peu entraîné. J'ai deux enfants, j'ai repris le magasin de vélo familial. Donc il y a beaucoup de boulot à la maison puis au travail. Donc voilà, moins d'entraînement, mais sur une course comme ça, la forme est toujours là. J'aurais pas fait une course de 4 heures aujourd'hui.
Et chez les dames, c'est Katia Montagny qui est montée sur la première marche du podium en 30 minutes et 15 secondes, juste devant Lise-Marie Inzelin et Florence Darbelay. Du côté des organisateurs, on relève une bonne affluence pour cette édition.
La météo avec Meyer Garden Center à Colombier pour fleurir au mieux vos jardins, terrasses et balcons.
Un regard par la fenêtre pour vous parler de la journée de demain qui s'annonce bonne nouvelle, à nouveau printanière. Le temps sera encore bien ensoleillé. Seuls quelques cumulus et voiles d'altitude s'inviteront dans le paysage l'après-midi. Des averses ne sont pas exclues en soirée. Côté température, il fera frais au petit matin entre moins 1 et 4 degrés. Mais le mercure va rapidement prendre de la hauteur. L'après-midi, le thermomètre affichera 16 degrés dans les montagnes et les vallées et jusqu'à 20 degrés sur le lit. Mardi, le temps risque d'être moins réjouissant. Le ciel s'annonce chargé de nuages. Les averses seront fréquentes et, mauvaise nouvelle, la limite des chutes de neige pourrait s'abaisser jusqu'à 800 mètres dans la nuit de mardi à mercredi. Belle soirée.
La météo avec Meyer Garden Center à Colombier, votre adresse de proximité pour tout type de piscine, spa et leur entretien.